Chapitre 13. De retour à la pièce 203, Fred écoutait d'une oreille distraite la lecture des résultats de ses tests et les commentaires des deux psychotechniciens. « Dans votre cas, il s'agit de ce que nous nommons concurrence plutôt que d'une altération. Asseyez-vous. »«
D'accord. »
Stoïquement, Fred s'exécuta.
« Rivalité entre les hémisphères cérébraux, » précisa l'autre spécialiste. « Il s'agit moins d'un signal unique qui serait défectueux ou contaminé que de l'interférence de deux signaux porteurs d'informations contradictoires. »«
Nous utilisons normalement l'hémisphère gauche, » relança son collègue. « C'est là que se situe le système du moi ou la conscience. Cette dominance cérébrale vient de la localisation dans l'hémisphère gauche des fonctions du langage. Pour être plus précis, ce phénomène de latéralisation suppose une capacité verbale, une valence du cerveau gauche et une aptitude spatialisatrice du cerveau droit. Le gauche peut être comparé à un calculateur numérique, le droit à un calculateur analogique. La bilatéralité fonctionnelle ne se réduit donc pas à une simple réduplication. Chaque système contrôle et traite l'information à sa manière. Or, dans votre cas, aucun hémisphère n'affirme sa dominance, aucun ne manifeste d'activité compensatoire. L'un vous dit une chose, l'autre dit une chose différente.
C'est comme si vous aviez deux jauges de niveau d'essence à bord de votre voiture, et que l'une vous annonce un réservoir plein, tandis que l'autre indique un réservoir à sec. Elles ne peuvent pas avoir raison toutes les deux. Il y a conflit. Seulement chez vous, nous n'avons pas affaire à un appareil fonctionnant correctement et à un appareil défectueux. Non, c'est plutôt... Écoutez, voici ce que je veux dire. Les deux jauges analysent exactement la même quantité de carburant, même réservoir. Elles éprouvent le même objet, en fait. Vous, le conducteur, n'entretenez qu'une relation indirecte avec le réservoir. Vous passez par la jauge, ou, dans le cas présent, les jauges. En somme, le réservoir pourrait tomber à zéro et vous n'en sauriez rien jusqu'à ce que l'information apparaisse sur un cadran quelconque, ou jusqu'à l'arrêt complet du moteur. Il ne faut surtout pas que vous vous trouviez en présence de deux jauges qui vous livrent des informations contradictoires, car dès cet instant, vous n'avez plus aucune connaissance de la situation dont il vous est rendu compte. Ce n'est pas comme si vous disposiez d'une jauge principale et d'une jauge auxiliaire prête à la remplacer en cas de mauvais fonctionnement.
« Et alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ?» demanda Fred.
« Je suis sûr que vous le savez déjà, » fit le psychotechnicien de gauche. « Vous l'avez ressenti sans en connaître la nature ni la raison. »
« Les deux hémisphères de mon cerveau sont en compétition ?»«
Oui. »
« Pourquoi ?»«
La substance mort. Elle provoque souvent ce genre de troubles fonctionnels. Nous nous y attendions et les tests le confirment. L'hémisphère gauche, dominant en temps normal, s'est trouvé endommagé. Et l'hémisphère droit tente de pallier sa défaillance. » Malheureusement, l'ambilatéralité est impossible, car il s'agit d'une situation anormale à laquelle le corps n'est pas préparé. Cela ne devrait jamais se produire. Nous nommons ce phénomène indication croisée. Il est relié aux expériences de split brain. Nous pourrions effectuer une hémisphérectomie, mais...
Est-ce que ça passera quand je décrocherai de la substance M ?
Probablement, fit le type à gauche. C'est un trouble fonctionnel.
Il peut y avoir une lésion organique, reprit l'autre. Ça pourrait être permanent. Le temps nous le dira, et seulement après que vous aurez abandonné la substance M depuis longtemps. Et vraiment abandonné.
Quoi ? Fred ne comprenait pas la réponse.
Était-ce oui ou non ?
Était-il atteint définitivement ? Qu'avaient dit les types ?
Même en cas de lésion tissulaire, la stéréotaxie permet actuellement de détruire de petits groupes de cellules dans chaque hémisphère afin d'arrêter la concurrence interhémisphérique dans le traitement des informations sensorielles. On pense que ce traitement permettra un jour de rétablir la latéralisation originale.
Toutefois, précisa le deuxième psychotechnicien, on risque de se heurter à un autre problème. L'individu pourrait, dans ces conditions, ne recevoir que des impressions partielles. Je parle des informations sensorielles présentées pendant le reste de son existence. Il ne percevrait qu'un demi-signal au lieu de deux signaux, ce qui, selon moi, n'est pas moins incapacitant.
Oui, mais un fonctionnement partiel de type non compétitif vaut mieux que pas de fonctionnement du tout. Or, une transmodulation interhémisphérique compétitive équivaut à une perception nulle.
Comme vous le voyez, Fred, vous n'avez plus de...
Je ne prendrai plus jamais de substance M, déclara Fred. Plus jamais.
Quel est votre régime actuel ?
Guerre considérable. Après un silence,
Il ajouta, « J'ai augmenté les doses récemment, à cause du stress professionnel. »
Il faut qu'il vous relève de vos fonctions, aucun doute là-dessus. De toutes vos fonctions. Vous êtes handicapé, Fred. Et vous le serez encore pendant un sacré bout de temps. Après, personne ne peut être sûr. Vous pouvez vous rétablir complètement. Ou peut-être pas.
Comment se fait-il, demanda Fred d'une voix râpeuse, que même si mes deux hémisphères sont dominants, ils ne reçoivent pas les mêmes stimuli? Pourquoi leurs deux je-sais-quoi ne peuvent-ils pas être synchronisés, comme pour l'effet stéréo?
Silence.
Je dirais, il se mit à gesticuler, que la main droite et la main gauche, quand elles saisissent le même objet, devraient...
La dextralité et son contraire au sens où l'on emploie ces termes en parlant de l'image au miroir, lorsque la main gauche devient la main droite.
Le psychotechnicien se pencha vers Fred, qui ne releva pas la tête.
Comment vous y prendriez-vous pour définir un gant gauche par opposition à un gant droit, de manière qu'une personne n'ayant aucune connaissance de ces termes sache duquel vous parlez et puisse le saisir sans se tromper? L'image réfléchie?
Un gant gauche, commença Fred, qui ne put continuer.
Tout se passe comme si un hémisphère de votre cerveau voyait le monde réfléchi dans un miroir. En un miroir, vous comprenez? La gauche devient la droite, avec tout ce que ça suppose. Et nous ne savons pas encore ce que ça suppose de voir le monde ainsi inversé. Sur le plan topologique, un gant gauche n'est rien d'autre qu'un gant droit étiré à travers l'infini.
En un miroir, obscurément, dit Fred. Un miroir assombri, une caméra obscure. Et par miroir, Saint Paul n'entendait pas un objet de verre étamé. Ça n'existait pas à son époque. Mais une surface métallique polie, celle d'un plateau par exemple, dans laquelle il pouvait contempler son reflet. Luckmann lui avait appris ça au cours de ses lectures théologiques. Pas un télescope ou un dispositif à lentille qui ne crée aucune inversion, mais simplement l'image inverse de son visage aperçue dans un miroir, étirée à travers l'infini, comme ils disent. Pas à travers un miroir, mais réfléchie par un miroir. Et ce reflet qui te revient, c'est toi. C'est ton visage, et pourtant ça ne l'est pas. Il n'avait pas de caméra en ce temps-là, et personne ne pouvait se voir autrement qu'à l'envers. Je me suis vu ainsi. En un sens, c'est l'univers entier que j'ai commencé d'apercevoir de cette manière, avec l'autre moitié de mon cerveau.
La topologie, pérorait un des psychothèques. Une science, une mathématique, au choix peu comprise. De même que les trous noirs de l'espace. Comment ?
Fred a tourné son œil en dedans et voit le monde à l'envers, coupa l'autre. Par devant comme par derrière, en somme. Nous aurions du mal à décrire comment il lui apparaît. La topologie est cette branche de la mathématique qui étudie les propriétés qualitatives des êtres géométriques ou autres qui conservent leur identité lorsqu'ils sont soumis, point par point, en n'importe quel point, à une transformation continue. Mais lorsqu'on applique cela à la psychologie,
et s'il s'agit d'objets, qui sait à quoi ils vont se mettre à ressembler? Ils peuvent devenir méconnaissables. Songez à l'effroi du primitif lorsqu'on lui montre une photo de lui-même. Il ne s'y reconnaît pas, bien qu'il ait déjà eu maintes occasions d'apercevoir son reflet dans l'eau ou sur des objets de métal poli. C'est que son reflet est inversé tandis que la photographie ne l'est pas. Aussi ne sait-il pas qu'il s'agit du même individu.
Il ne connaît que son image inversée et s'imagine que c'est à cela qu'il ressemble.
Quelqu'un qui écoute un enregistrement de sa propre voix. Là, c'est différent. Il y a une question de résonance dans les sinus.
Fred leur coupa la parole.
Peut-être que c'est vous autres, tas de branleurs. Peut-être que c'est vous qui voyez le monde à l'envers, comme dans un miroir. Et moi, je le vois à l'endroit.
Vous le voyez dans les deux sens. Ce qui est...
L'un des psychothèques se lança. Il était courant de dire qu'on n'aperçoit que des reflets de la réalité, et non la réalité elle-même. Le principal défaut du reflet n'est pas son manque de réalité, mais le fait qu'il soit inversé. Je me demande...
Il employa une expression curieuse.
La parité. Le principe scientifique de parité. Le monde et son reflet, l'un confondu avec l'autre pour une raison quelconque, parce que nous ne possédons pas la parité bilatérale.
Tandis qu'une photographie peut compenser le manque d'ambilatéralité hémisphérique. Ce n'est pas l'objet, mais ce n'est pas son inverse. De sorte que l'image photographique ne serait plus une image, mais la forme vraie, l'inverse d'un inverse.
Mais il peut arriver qu'une photo soit accidentellement inversée, elle aussi. Lorsque le négatif est retourné, impressionné dans le mauvais sens. D'habitude, on s'en rend compte quand il y a quelque chose d'écrit. Mais il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit d'un visage. On peut très bien se retrouver avec deux épreuves dont l'une soit inversée et l'autre pas. Quelqu'un qui n'aurait jamais rencontré l'individu en question ne pourrait pas dire quelle est la bonne photo, mais verrait bien qu'on ne peut pas les superposer.
Eh bien, Fred, est-ce que tout cela ne vous fait pas mesurer à quel point il est difficile de distinguer un gant gauche de...
Ainsi s'accomplira ce qui est annoncé dans l'Écriture, fit une voix, et la mort sera engloutie par la victoire.
Seul, peut-être, Fred l'entendit.
Car, poursuivait la voix, dès que l'Écriture apparaîtra inversée, vous saurez ce qui est illusion et ce qui ne l'est pas. La confusion prend fin, et la mort, l'ultime ennemi, la substance mort, est engloutie non par le corps, mais par la victoire. Et voici, je vous révèle le secret, nous ne dormirons pas tous dans la mort.
Le mystère, pensait-il, l'explication, veut-il dire, d'un secret sacré, nous ne mourrons pas. Les reflets nous quitteront, et ça ne prendra pas longtemps. Tous, nous serons transformés, et ce qu'il veut dire, c'est que nous serons inversés brusquement, en un clin d'œil. Parce que, songea-t-il, en lorgnant d'un œil maussade les psychothèques de la police qui achevaient de transcrire leurs conclusions et signaient leur rapport, c'est en ce moment qu'on est à l'envers, tous. Chacun d'entre nous est la moindre foutue chose de notre monde, et la distance, et même le temps. Mais combien faut-il au photographe qui tire une épreuve contact pour se rendre compte que le négatif est inversé? Combien pour le retourner, le remettre en position correcte? Une fraction de seconde. Je comprends ce passage biblique, en un miroir obscurément, mais mon système perceptif ne reste pas moins bousillé. Comme ils disent, je comprends, mais suis incapable de m'aider moi-même. Du fait que je perçois tout ensemble, l'objet et son inverse, peut-être suis-je le premier personnage de l'histoire humaine à voir au même instant recto verso, et donc à deviner la forme ultime des choses lorsque nous les verrons face à face. Et je n'en possède pas moins l'autre vision, la vision normale. Mais laquelle est normale? Laquelle est inversée? Laquelle ne l'est pas? Quand vois-je la photographie? Quand le reflet? Et quelles indemnités vais-je toucher? Quelle prime de maladie ou de retraite pendant que je serai au rancard? Il se sentait gagné par une horreur profonde. Le froid régnait autour de lui.
Wie kalt ist es in diesem unterirdischen Gewölbe? Das ist natürlich, es ist ja tief.
Et je dois arrêter la merde. J'ai vu des gens subir le sevrage. Seigneur, songea-t-il en fermant les yeux.
Tout ça vous paraîtra peut-être un peu métaphysique, disait un des types. Mais les mathématiciens pensent que nous sommes probablement à l'aube d'une nouvelle cosmologie tellement...
L'autre s'exclama aussitôt.
L'infinité des temps exprimée comme éternité, comme une boucle de bandes magnétiques.
Il lui restait une heure à tirer avant de retourner au bureau de Hank afin d'examiner les preuves fournies par Jim Barris. Il éprouva l'envie de faire un tour à la cafétéria et marcha dans cette direction parmi les employés en uniforme, ceux qui portaient une cravate, ceux qui se baladaient en jean et les complets brouillés.